Radio Foot International, Annie Gasnier.
Merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International sur RFI comme chaque jour et notre première édition puisque ce soir nous nous retrouverons aussi en direct pour nos auditeurs africains. Radio Foot, eh bien voilà des nouvelles de la CAF.
Ahmed, président de la CAF, a proposé au comité exécutif de l'institution, réuni au Caire le 19 juin 2019, de solliciter l'expertise de la FIFA afin d'évaluer la situation actuelle au sein de la Confédération et de contribuer à l'accélération du processus de mise en œuvre des réformes en cours, destinées à assurer à la CAF un fonctionnement de manière transparente.
Le ton solennel du secrétaire général Mouad agit pour annoncer le recours de la Confédération africaine à la Fédération internationale, la CAF, sous tutelle de la FIFA à partir du 1er août prochain. La Sénégalaise Fatma Samoura est chargée d'un audit général, tant du mode de fonctionnement que des finances de la Confédération africaine. Nous essaierons de comprendre pourquoi le comité exécutif a pris cette décision avec l'un de nos envoyés spéciaux, Christophe Jousset, qui nous parlera aussi un peu de ce coup d'envoi qui sera donné demain de la 32e Coupe d'Afrique des Nations. Les Égyptiens sont-ils prêts à s'enthousiasmer pour la compétition? Ne perdons pas de vue le sportif. En Copa América, les Colombiens déjà qualifiés pour les quarts de finale, les Argentins, eux, toujours pas. Lionel Messi et ses camarades devront battre le Qatar pour être au prochain tour de la compétition. Début de Copa América compliqué pour les favoris. Et puis en Coupe du Monde en France, les Lions du Cameroun poursuivront-elles l'aventure? Rendez-vous crucial ce soir à Montpellier face aux Néo-Zélandaises. Il faudra un gros match des Camerounaises. Et vous pourrez l'écouter sur RFI tout à l'heure avec Olivier Pron et Christophe Diremzian que nous rejoindrons en fin d'émission. Ici dans ce studio, pour évoquer les sujets du jour, Nabil Djellit, notre confrère de France Football, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
A signalé dans le numéro de cette semaine une trentaine de pages.
Spécial Cannes. Oui,
notamment vous et Franck Simon qui avaient commis beaucoup d'articles.
Oui, un portrait de Mohamed Salah, une interview de la révélation de la saison en Ligue 1, Youssef Attal, l'international algérien, et plein d'autres choses à découvrir.
Et le programme surtout des matchs, tout ce qu'il faut savoir sur les équipes qui participeront à la Coupe d'Afrique des Nations. À vos côtés, Salim Bongali, notre confrère de RMC Sport. Bonjour Salim.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et tous.
Lui garde toujours un œil sur les filles aussi, et c'est important.
Moi aussi Annie, je garde toujours un œil sur les filles.
Peut-être que Freddy aussi d'ailleurs, je pense que oui. Je ne poserai même pas la question.
Bonjour Freddy. Bonjour Ali, bonjour à tous. Très heureux.
Notre confrère gabonais.
Un autre œil sur les garçons.
Oui, il faut avoir des yeux parfois qui divergent et non pas qui convergent. Radio Foot, c'est parti. Radio Foot au Caire, grâce à tous ses envoyés spéciaux, tous nos confrères du service des sports et les techniciens aussi qui rythmeront la compétition de la CAN 2019 depuis la capitale de l'Égypte. Alors le football africain, eh bien il est à la fête théoriquement, mais il est toujours aussi dans la tourmente. À la veille de sa compétition majeure qui débutera donc demain soir, la Confédération africaine de football a appelé la FIFA au secours pour tenter de sortir du mauvais pas, de la mauvaise passe dans laquelle s'est enfoncé le football africain ces derniers temps et surtout son organisation. Christophe Jousset, vous êtes vous déjà au Caire, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Christophe, d'abord, rassurez-nous, la CAN, elle commencera bien demain soir à 22h par le coup d'envoi d'Égypte-Zimbabwe.
Oui, il n'y a rien de changé de ce point de vue-là. Tout est en place. On a vu une évolution. On est passé une première fois en arrivant il y a 48 heures au stade international du Caire. Il y avait des coups de marteau un peu dans tous les sens, des pinceaux aussi qui s'agitaient. Aujourd'hui, ça a bien avancé. Donc tout se prépare pour le coup d'envoi avec évidemment Mohamed Salah et les autres pharaons contre le Zimbabwe demain 22h. Il fera encore chaud.
Oui, alors il fera encore chaud. Est-ce que vous avez l'impression que la ville ou le pays commence à vibrer autour de la compétition ?
Écoutez, c'est compliqué à évaluer parce que le Caire vibre en général. Vous savez, c'est une ville qui est tellement, où il y a tellement de monde, où il y a tellement de circulation, que l'activité est permanente et sentir la canne dans le Caire, c'est quand même c'est assez dilué quoi. On voit en arrivant à l'aéroport qu'il va y avoir la canne. Il y a des affiches partout. Il y a les gens qui attendent les délégations. Donc ça, c'est ce qu'on a vécu. Après on s'attendait à voir Mohamed Salah un petit peu partout sur les panneaux publicitaires, mais manifestement il a voulu que ça soit, on mette un petit peu la pédale douce par rapport à ça. Il y a quelques panneaux de pub avec Salah, mais pas tant que ça. Et puis bah on attend vraiment d'entrer dans la compétition demain avec cette entrée des pharaons devant leur public pour vraiment sentir le coup d'envoi de la CAN.
Oui, c'est vrai que l'Égypte a été désignée il y a à peine 6 mois, et donc il faut une mise en forme et une mise en train, mais demain avec les pharaons qui fouleront la pelouse en premier, ça devrait être rapide. En tout cas, Christophe, venons-en aux instances de la CAF, cette confédération qui organise cette belle fête du football. On a enfin su ce matin ce qu'avait décidé le comité exécutif qui était réuni hier au Caire avec cette annonce. Vous avez entendu tout à l'heure le secrétaire général marocain qui évoquait cette demande officielle d'aide de la CAF à la FIFA. Écoutons au micro d'Antoine Grenier, qui était ce matin avec le président Hamad, et bien expliquer ce président pourquoi on en appelle à la FIFA.
Nous avons décidé d'un commun accord sur ma sollicitation personnelle, parce qu'il n'y a pas de mieux que la FIFA qui puisse venir voir ce qui se passe à l'interne de la CAF. Et je peux vous garantir, au bout de cette investigation, vous allez entendre beaucoup de choses, j'en sais quelques-uns. Mais ce n'est pas à moi d'étaler ça en public, ce n'est pas mon éducation, ce n'est pas ma culture. Tout doit se traiter en interne. C'est d'un commun accord, avec toute sincérité, que nous allons travailler ensemble pour le bien du football africain. Je communique souvent avec le président Gianni. On se concerte souvent pour des problèmes particuliers sur le développement du football, d'une manière générale, mais surtout sur le football africain. Il a un espoir qu'on peut changer les choses en Afrique et il est disposé à apporter son appui. Qu'est-ce qu'on veut de plus, Hirod ?
Qu'est-ce qu'on veut de plus ? Alors Christophe Jousset, on savait que la CAF était empêtrée dans plusieurs histoires pas très glorieuses. Je citerai juste cette finale retour de la Ligue des Champions qui s'est disputée à Tunis et qui est à rejouer après la CAN théoriquement. La situation est-elle finalement plus grave pour les dirigeants et voire pour le président Hamad ?
Bah, il y a plusieurs signes ces derniers mois, effectivement, qu'il y a des problèmes de gouvernance, comme on dit. Vous avez parlé de cette finale de Ligue des Champions, mais il y a eu avant, par exemple, le long feuilleton de la CAN 2019, retiré finalement au Cameroun et réattribué à l'Égypte. Il y a eu plus récemment des soubresauts, ça a tangué, hein, comme on dit, au plus haut sommet de la CAF, avec au mois d'avril le limogeage du secrétaire général, qui se trouve avoir porté des accusations graves contre son président, contre Hamad. Et puis finalement, début juin aussi, dans une affaire de corruption, les enquêteurs français qui ont voulu entendre Hamad pendant plusieurs heures, et Hamad était ressorti libre sans poursuite. Donc tout ça a dégagé une image évidemment négative du football africain. Les problèmes de gouvernance et d'administration, eh bien, ils sont là. Personne ne les conteste, même pas le président Hamad, d'ailleurs, hein, parce que dans les colonnes de France Football, il y a quelques jours, il avait reconnu le malgache, son échec dans l'amélioration de la transparence financière de la CAF. Et il expliquait que même lui, président de la CAF, ne parvenait pas à obtenir de son directeur financier l'état des comptes de la CAF, ce qui avait amené à la suspension du directeur financier en question. Donc voilà un peu la situation. On a l'impression que la CAF n'avait plus les moyens de résoudre elle-même ses propres problèmes internes et que c'est pour ça que la solution va venir de l'extérieur.
Nabil, je vous ai vu avec un léger sourire quand on entend le président Hamad dire « c'est moi qui en appelle à Gianni ». Il l'appelle Gianni d'ailleurs, c'est Infantino, bien sûr, le président de la FIFA, et qui estime que c'est lui qui demande de l'aide à la FIFA. Est-ce que c'est un aveu ou un semi-aveu d'échec ?
Écoutez, moi, il est libre de ses propos, mais j'ai du mal à croire que ça soit sur son unique et unilatérale sollicitation. Je pense tout simplement à nier, c'est mon opinion, mais j'ai pas la vérité suprême, que la FIFA met son nez dans les affaires de la CAF. Pourquoi ? Parce qu'elle a peur qu'il y ait d'autres choses qui ressurgissent à la surface, puisqu'on voit qu'il y a un climat qui est actuellement plus ou moins insurrectionnel, de ce que j'entends. Il y a des conflits à ciel ouvert. Et ce qu'on dit souvent, en étant parfois taxé de complotisme, se révèle être au grand jour. Finalement, l'Afrique, et moi je termine là-dessus, souffre. Le footballeur africain et le football africain souffrent depuis et encore aujourd'hui, avant tout, de ses dirigeants.
Et on se souvient de ce message de la FIFA à travers Gianni Infantino au moment où le président Hamad était interrogé par la police en France et où il y avait eu ce message où déjà on sentait, on avait appelé ça ici un lâchage un peu, mais on avait l'impression déjà qu'il se distanciait alors qu'il l'a beaucoup soutenu quand il a été élu en Éthiopie il y a deux ans.
Ils se sont mis au milieu du guet, ils attendent de quel côté la pièce va retomber et puis ils adapteront leur situation, d'autant que la FIFA était aussi prise dans une tempête ces dernières années. Et aujourd'hui, c'est une branche, la CAF, c'est une branche de la FIFA, et la FIFA ne peut pas non plus se permettre d'être amalgamée avec des faits de corruption et autres.
Dans ce communiqué, d'ailleurs, il est bien précisé que le but de l'intervention, c'est pour apporter stabilité, sérénité, professionnalisme et développement effectif du football sur le continent africain. Freddy Koula, que lisez-vous dans toutes ces déclarations et dans tous ces propos ?
Ben, c'est plutôt triste parce que si c'était un État, on aurait appelé ça, ce qui s'est passé aujourd'hui, on aurait appelé ça coup d'État. Un coup d'État, mais bien orchestré, parce qu'évidemment, c'est un jeu de chaises musicales. J'en ai discuté avec quelques-uns qui sont très proches de la CAF d'ailleurs, il y a quelques instants même au téléphone, et il y en a qui en rigolent. Parce qu'évidemment, même Fatoumata, qui va, elle, prendre la tête de cette sorte de normalisation-là.
Samoura,
il a pour le coup.
Ouais, du coup, elle aussi, ça fait, il y a longtemps qu'on a eu envie de la valser de cette FIFA-là. Quelques rumeurs sortaient en disant qu'elle devait se faire remplacer.
Elle est secrétaire générale de la FIFA.
Elle est jeune pour l'instant, mais
on
la met un tout petit peu à l'écart.
Elle commencera le 1er août et ça durera jusqu'en janvier 2020.
Elle va s'installer au Caire.
Mais théoriquement, elle reste secrétaire générale de la FIFA.
Oui, mais elle va s'installer au Caire. Elle va s'occuper de tout ce qui est fonctionnel. Et puis, évidemment, politiquement, Hamad, il va jouer un peu de son côté politique. Mais évidemment, ce qui arrive actuellement, c'est que Hamad, il paie un tout petit peu. C'est lui qui est le perdant dans l'histoire, parce qu'il a été soutenu par Infantino. Il a été lâché par ses amis arabes qui l'ont soutenu, qui l'ont mis là. Lui a soutenu Infantino.
Enfin, pas tous. C'est le Maroc qui est derrière en grande partie.
Tout le bordel qu'il y a autour là, c'est un peu la répercussion au sommet de ce qui se passe dans les fédérations africaines. Mais je vous dis, mais honnêtement, ce qui se passe à la fois en Coupe de la CAF, pas seulement les demi-finales, les finales, nous on les voit retransmises, mais il se passe un tas de corruption avec les arbitres. Moi, j'en connais quelques-uns d'ailleurs qui ont eu de pots de vin, et ça, évidemment, je sais que je vais pas être poursuivi pour ça, mais j'en connais qui jusqu'à aujourd'hui encore, pour l'instant, reçoivent de l'argent pour pouvoir arbitrer, mais de façon peu partisane, évidemment.
Alors, je vais revenir à vos propos concernant Fatma Samoura. Alors, on l'appelle, et vous l'avez très bien dit, Annie, elle a un haut degré, en tout cas, elle est placée très haut à la FIFA, donc elle va être là en quelque sorte pour diriger, je pense qu'on va dire entre guillemets la CAF, en tout cas, elle va être à la tête effectivement de ce comité-là. Donc en gros, elle a les deux casquettes. Vous avez utilisé le terme de coup d'État. C'est vrai qu'au final, la FIFA va s'accaparer entre guillemets la CAF, puisque c'est une personnalité importante de la FIFA qui va ainsi pendant 6 mois entre guillemets diriger la CAF. Donc c'est Alexandre Tcheferin aujourd'hui, le président du UEFA, qui
c'est amusant, il est pas d'accord, lui.
Son agacement, et pas qu'un peu, en disant que la FIFA venait clairement prendre la tête d'une confédération. Et c'est vrai que ça passe très mal auprès du UEFA et même des autres confédérations au final. C'est vrai que au final, vous avez utilisé le terme coup d'État. J'irai pas jusque là, mais c'est vrai que ça a des allures d'eux.
Mais ça va surtout mal passer dans l'imaginaire des Africains, en règle générale.
Tout à fait.
Quand on connaît l'histoire du continent.
C'est sans doute pour ça aussi que c'est une Sénégalaise qui est chargée de cette mission.
Tout à fait. Donc il y a aussi une forme de brimade et de vexation. Et certains peuvent y voir avec des ressorts psychologiques qu'on connaît, une forme de néocolonialisme ou ce que vous voulez. Mais en tout cas, je suis persuadé que ça va être perçu en grande partie comme ça.
C'est une maladresse d'Infantino qui veut se laver un tout petit peu aussi, parce que lui aussi est dans cette affaire-là. Je pense qu'il y a un côté où il n'est pas totalement innocent et il a peur évidemment qu'il soit éclaboussé.
Que ça lui retombe. Si,
voilà, c'est un peu.
Maintenant qu'il a été réélu, il a voulu ça. En tout cas, Christophe, ce matin, le président Hamad parlait et tentait d'évoquer aussi des choses positives en disant donc qu'il avait fait plus qu'il n'avait promis, mais on l'avait lu dans l'interview à laquelle vous faisiez allusion dans France Football, il met aussi en cause la longue gestion antérieure. Et à la question qui lui a été posée ce matin de savoir si Issa Hayatou avait été invité à cette 32e édition de la CAN, la première depuis qu'il n'est pas président, eh bien voici sa réponse.
Nous avons une règle au sein de la Confédération, une règle statutaire qui définit, lorsque vous arrivez à terme de votre mandat, soit vous deviendrez membre d'honneur ou président d'honneur de foi. Vous demandez s'il va être invité ou non. Moi, sur le plan social, moi-même personnellement, je peux le faire. Si la personne... Vous savez que j'ai été même pas félicité par mon challenger jusqu'à aujourd'hui, ça fait 2 ans. La première chose à faire dans la vie, c'est de féliciter son adversaire. J'ai même pas eu droit à ça. Le bureau qui se charge des invitations, s'ils l'ont envoyé, c'est pas moi qui va aller bloquer ça. Mais j'ai pas regardé ça. Mes invités, en priorité, c'est le président de la FIFA avec son équipe et les autres présidents des confédérations qui sont en exercice.
Christophe, on attaque le passé pour se sauver?
Ouais, je voulais juste ajouter par rapport au premier thème là que vous avez abordé oui. Là il y a 2 minutes
la nomination.
La façon dont c'est perçu au sein des dirigeants africains, j'ai parlé avec un dirigeant de fédération qui parlait de mise sous tutelle. Donc vous voyez que en fait c'est un peu comme si dans une famille il y avait des problèmes et qu'on était obligé d'appeler Super Nanny quoi. C'est pour venir quelqu'un de l'extérieur. Ouais. Bon après sur la référence à Issa Hayatou, en fait c'est nouveau. Ça fait 2 ans et demi que l'élection a eu lieu, enfin pas tout à fait 2 ans et demi, mais jusqu'à présent, ni Issa Hayatou ni Hamad n'avaient fait de commentaires l'un sur l'autre. Donc là, ce qui s'est produit tout à l'heure, c'est inédit. Et effectivement, il n'a même pas pris la peine de citer Issa Hayatou, Hamad, il a dit prédécesseur. Et on sent tout le ressentiment qu'il y a de la part d'Hamad envers son prédécesseur.
Salim.
Je voulais surtout dire une chose par rapport à cette situation et surtout les déclarations du président Hamad. On a entendu ce ton utilisé. J'ai l'impression que c'est un gamin. Vous savez, un enfant d'école. Ah, mais regardez, il m'a pas remercié l'autre fois quand j'ai gagné. Mais vous vous rendez compte, vous êtes à la tête de la Confédération africaine de football, de l'une des plus grandes organisations alors sportives et même au-delà, même politique. Au final, une confédération, c'est aussi politique. Et vous en êtes à argumenter de cette manière-là. Et malheureusement, et je veux le dire entre guillemets, ça retombe encore une fois sur l'Afrique. Vous savez, vous imaginez le regard que les autres pays, que les autres continents avoir en se disant « Regardez, c'est encore le président d'une confédération africaine qui parle comme ça. » Ben oui, c'est l'Afrique. L'image que ça redonne, c'est invraisemblable.
C'est pour ça que depuis quelques jours, on disait sur RFI cette tourmente autour du football africain.
Ouais, c'est un peu à l'image de... C'est un ancien président de fédération. Ouais. Et ils sont quasi systématiquement comme ça, tous les présidents de fédération, pour la plupart en Afrique. Il y a toujours une théorie du complot autour, parce qu'évidemment, il y a énormément d'argent qui tourne autour du foot, et ils se sentent, entre guillemets, intouchables. Et dès qu'il y a quelqu'un qui regarde un tout petit peu, il y a une théorie du complot autour. Et Hamad, moi, il y a une phrase qui m'a choqué. Évidemment, vous l'avez pas cité, mais il a dit, évidemment, en parlant de, il a dit que tous les ingrédients sont là pour réussir, pour qu'on réussisse cette CAN-là. Mais cela n'entame en rien les velléités de certaines personnes qui veulent toujours nous détruire. Mais c'est énorme, parce que il y a donc une théorie du complot, il y a un imaginaire dans la tête d'Hamad qui veut qu'il y a des gens autour qui veulent le détruire, évidemment, parce qu'il sait qu'il y a des casseroles, pas lui seulement, tous les autres présidents de fédération. Mais je vous assure que si la FIFA elle-même regardait ce qui se passait dans chacune des fédérations, elle aurait mal à la tête avec les subventions et l'argent que la FIFA envoie. Il y a presque la moitié de cet argent-là qui ne va pas pour le développement du football.
Nabil, pour
moi,
terminer.
Moi, j'ai aussi écouté avec intérêt ces déclarations. Bon, on a compris que c'était pas le roi de la com. Au moins, s'il était bon dans le reste, on pourrait toujours dire que c'est pas forcément un tribun, mais c'est quelqu'un qui, c'est quelqu'un qui gère bien. Mais malheureusement, jusqu'à présent, on a l'impression que les casseroles
sur Twitter ne fonctionnent plus.
Sur les casseroles, les casseroles s'accumulent. Moi, ce qui m'a plus encore un peu heurté, c'est quand il a expliqué aux journalistes, aux parterres de journalistes qui étaient en face de lui, que si on réussissait, c'était nous tous ensemble, et si on échouait, c'était nous tous ensemble. Moi, je suis désolé, les journalistes et les observateurs, ils sont pas responsables d'une confédération de football et d'une organisation d'une compétition. Je veux dire, le principal responsable, et c'est aussi pour ça qu'il est aujourd'hui en poste, et c'est aussi pour ça qu'il a fait campagne, c'est lui. Donc il va pas nous expliquer que si on réussit, c'est tous ensemble, et si on échoue, c'est tous ensemble. Je pense que ceux qui sont payés pour que ça se passe bien, c'est plutôt lui que les autres en face.
Mais
enfin, je trouve que il est à côté de la plaque.
Mais je connais quelques présidents de fédération qui trouve qu'Ahmad n'est pas compétent et qu'il a été mis là entre guillemets par défaut.
C'est-à-dire mais est-ce que eux, ils sont compétents?
À ce moment-là, quand il fallait se présenter alors qu'il fallait virer Issa Yatou, on a choisi celui qui était le moins mauvais possible. C'est évidemment, lui, il avait quelques accointances avec Infantino, qu'il a pistonné. Évidemment, là,
Freddy, il n'y a pas de langue de bois.
Quand on n'est pas compétent, évidemment.
Vous êtes comme Aubameyang.
À un moment donné, ça finit par se voir. Et malheureusement, son incompétence, là, entre le se voir, même si il est plutôt sympathique comme personne, mais ça trahit toujours.
On peut aller voir. Gentil, c'est pas un métier.
Ouais. Bon ben voilà Christophe, pour ce qui est de l'ambiance ici à Paris et de l'analyse qu'on en fait aussi à distance. Je terminerai juste sur une chose, apparemment les Camerounais ne sont toujours pas arrivés du côté du Caire, n'est-ce pas?
Oui, alors là, j'ai pas du tout de nouvelles. J'ai lu la même chose que vous, donc il y aurait des problèmes de primes.
C'était juste pour revenir sur ce thème, effectivement.
Ouais, non, mais, ça va. Sinon, enfin, il a appelé Eto, donc ça va.
Il joue le
Eto, on l'a vu ce matin faire une apparition une dizaine de minutes après le début de la conférence de presse du président Ahmad. Il est entré dans la salle par la porte gauche à côté de l'estrade. Pendant que le président était en train de parler, donc tout le monde l'a vu entrer. Il a dû rester, une quinzaine de minutes. Et puis, il est reparti comme il était venu et on ne l'a plus vu. Donc, il devait avoir des dossiers urgents à traiter.
Et ben voilà, ce dossier urgent, c'est que les Lions indomptables, pour l'instant, ne veulent pas quitter le Cameroun parce qu'ils négocient leur prime. C'est apparemment pour l'équipe Eric Choupo-Moting qui négocie au titre des Lions. Merci beaucoup, Christophe Jousset, d'avoir été en direct avec nous. Et on va se retrouver souvent ces prochains jours, n'est-ce pas?
Oui, en compagnie de Denis Chastel là, qui était à côté de moi pour assurer la liaison et on est parti pour un mois.
Hein. Lui, Médard Chablaoui et tous ceux qui sont autour de vous pour
effectivement. On se
prépare. Ouais. Ben on est prêt. Vous inquiétez pas. Merci beaucoup Christophe et à
plus
tard.
Merci à vous.
Merci.
Au revoir.
Le tigré avec Rames, l'extérieur du pied gauche de Rames, la tête et le but. Qui avait marqué face à l'Argentine lorsqu'il était entré sur le terrain, titularisé pour ce deuxième match. Et tel un félin, il se détend, il vient mettre ce coup de tête.
Et la classe de James Rodriguez.
Extérieur, pied gauche.
D'ailleurs, pied gauche dans la course.
Et la Colombie disputera les quarts de finale de la Copa América. Sa victoire hier sur le Qatar par ce but de Duván Zapata lui permet de continuer dans la compétition sud-américaine. 2 matchs de victoire, 6 points. La Colombie est à son niveau. Les Cafeteros sont solides, Salim.
Oui, hier en l'occurrence sur ce match face au Qatar, on a vu une Colombie qui a été dominatrice. Hein, en l'occurrence, même si le Qatar a eu quelques opportunités tout de même.
Avec oui, c'est le que colombien. 1-0.
Hein. Oui, c'est ça. En fait, le gardien colombien a fait ce qu'il a fait. Essayer de le faire sur 2 ou 3 opportunités. Après, l'homme du match, c'est le gardien du Qatar, en l'occurrence, qui a multiplié les parades durant cette partie. Et oui, comme quoi, cette équipe du Qatar, hein, on aura l'occasion sans doute de la voir dans 3 ans, évidemment, pour le mondial. Mais une équipe
Elle avait déjà tenu en échec le Paraguay, c'est pas rien.
Partout. Mm-hmm. Mais après, vraiment, la Colombie a dominé. Et lorsque Falcao est entré en jeu en seconde période, on a vu notamment Zapata et Falcao jouer ensemble. Et puis, James, cette passe, c'est vrai qu'on salue à juste titre les buteurs, mais c'est vrai que cette passe de l'extérieur du pied gauche,
c'est un délice.
Merveille absolue pour la tête de Zapata. Et Zapata, c'était pas forcément l'attaquant qui était attendu dans cette équipe de Colombie. Et bien, c'est lui qui, en 2 matchs, a marqué 2 buts clés pour 2 victoires.
Oui, il n'était pas attendu, mais on a parlé de lui tout au long de la saison.
Évidemment,
parce
avec
que,
son club italien.
C'est des hommes de Bergame, là, de l'Atalanta, qui donc seront en Ligue des Champions l'année prochaine. Pour l'Albi Celeste, eh bien, toujours pas qualifié.
On va, et oui, moi le sourire.
Hein, oui, on en a parlé avec Carlos Bianchi hier, qui était pas trop inquiet, bah pas trop inquiet. Ah, alors la première fois ils avaient perdu, la deuxième fois ils font match nul. Ouais, les ouais. Argentins, mais ils n'ont toujours pas gagné. C'était contre les Paraguayens, ils ont dû se contenter donc d'un match nul. Ils ont en plus été sauvés par leur grand gardien qui s'appelle Armani.
Ouais.
Pas Giorgio, hein.
Merci de nous mettre au parfum, Annie.
Ouais. qui est pas si terrible que ça, mais ouais. qui a été bon quand même.
Heureusement, ouais. il était pas en costume dans ses buts, mais il s'appelle Franco ouais. Armani. Il a donc arrêté le pénalty des Colombiens et écoutons Lionel Messi qui lui veut regarder, eh bien, déjà le prochain match qui sera, espère-t-il, celui de la qualification.
Parfois, c'est très difficile. Un match peut devenir fou parce que tu sais que tu dois le gagner pour être déjà qualifié. Et c'est là qu'on a commencé à faire des erreurs. On a commencé à leur laisser des espaces en les laissant contre-attaquer. C'est pour cela qu'au bout d'un moment, il ne fallait pas faire n'importe quoi pour inscrire un deuxième but. Il fallait rester organisé et bien sûr, il fallait qu'on gagne. On a même entrevu la victoire. Mais maintenant, il faudra qu'on remporte notre dernière rencontre. Il nous faudra au moins une victoire dans ce groupe, sinon ce sera vraiment difficile.
Oui, bien sûr, Lionel Messi, évidemment, Nabil, il veut rester positif. Bon, ça sera contre le Qatar. Alors, ouais. Le Qatar, on ne sait pas trop finalement
ouais, mais
quel est leur niveau.
Du Qatar.
Exactement. Mais les Argentins, de ce qu'on a vu jusqu'à présent, est-ce que vous pensez qu'ils ont le jeu voir les joueurs pour l'emporter, pour se qualifier pour le prochain tour?
Les joueurs, ils les ont parce qu'ils n'ont rien à envier aux autres sélections nationales qui jouent cette Copa América. Et puis, ils ont la cerise sur le gâteau, ou le gâteau sur la cerise qui s'appelle Lionel Messi, parce qu'en fait, l'équipe d'Argentine, c'est une cerise, et Messi, c'est le gâteau. C'est ce qu'il faut comprendre, en somme. Et c'est extrêmement décevant, parce que je disais au préfet que je faisais des insomnies, parce que c'est toujours un plaisir, enfin, ici, ouais. de regarder le Brésil ou l'Argentine, c'est des équipes qui nous ont toujours fait rêver.
Sauf que là, ça fait pas
Sauf
rêver.
Que, bah, là, j'ai un peu de mal à rêver avec cette équipe argentine, et c'est pour ça que même face au Qatar, Annie, qui est une équipe qui travaille bien, qui a des automatismes, qui a des certitudes, qui a certainement beaucoup moins de talent que l'Argentine. Il y a aucun souci, il faudra être vigilant. Alors soit l'Argentine cache son jeu et moi j'y crois pas, soit cette Argentine là est moyenne avec le meilleur joueur de la planète qui s'appelle Lionel Messi.
Mais il est pas entouré quand même de bras cassés. Il y a
c'est
Di Maria,
il y a
le Kun Agüero, c'est incroyable.
Mais on comprend rien cette équipe. Agüero, il est titulaire, il est remplaçant. Dybala, il joue pas, il joue. En fait, on ne comprend rien. Ça fait depuis la Coupe du Monde.
Et c'est marrant parce qu'après le premier match, on disait ça déjà. Exactement.
Je ne comprends rien.
Il n'y a qu'une cohérence. Exactement.
Bah, c'est un peu le copier-coller de ce qu'ils ont fait au Mondial. C'était une équipe. Moi, je disais en rigolant d'ailleurs que l'Argentine ressemble à un pays africain avec du pétrole, du manganèse et surtout de l'or, mais qui peine à bien soigner sa population et surtout à éduquer sa population. Évidemment, cette équipe d'Argentine ne fait pas du tout rêver. Moi, j'ai passé tout sur les deux matchs, mais j'étais là scotché devant mon écran en train de multiplier les tasses de café. Ça, j'avais mal pour Messi parce qu'évidemment, même sur ce match-là contre le Paraguay en première mi-temps, mais fallait voir comment Messi, il avait l'air résigné sur le visage.
Ouais,
évidemment, dans ce match-là, on a vu qu'il y a eu quelques choix forts. Je pense que là, on va prendre un peu le contre-pied de ceux qui disent que Messi souvent fait l'équipe et exige les joueurs. Je pense que sur le deuxième match, il y a eu des choix, quelques choix forts, évidemment, avec le jeune Paul qui a débuté, évidemment, la mise sur la touche d'Agüero et surtout Di Maria. Mais évidemment, en deuxième mi-temps, lorsque Agüero finalement est entré, c'est mm-hmm. à ce moment-là qu'on a vu cette Argentine jouer, avoir
oui.
des occasions.
Évidemment. Ils ont raté des choses en
voilà.
plus.
Et même en deuxième mi-temps, ça s'est joué sur deux, trois petites choses parce que le Paraguay aurait pu faire le break avant bien entendu l'égalisation. Et évidemment, ils ont été sauvés par le VAR. Messi a été bon sur le penalty, mais sur l'ensemble du match, je pense. Voilà, il est un peu résigné parce qu'autour, ça joue pas forcément comme il veut.
Et encore une fois, en plus, c'est un contexte particulier autour de cette sélection parce que Armani, vous l'avez dit, il arrête ce penalty. Il l'arrête bien, en tout cas, il se détend bien,
très bien oui.
sur sa gauche.
Il est grand, hein.
Après,
il était sifflé avant la mi-temps.
Mais dès qu'il l'arrête ce penalty, on le voit, il se lève et il fait ce chute qui est dirigé vers les supporters l'ont sifflé régulièrement pendant le match parce que il a notamment commis une bourde à un moment donné pendant cette rencontre. Mm-hmm. Bref, le contexte, l'ambiance autour de cette équipe est pas bonne. Moi, j'ai l'impression de revoir plus ou moins celle qui était autour de Sampaoli. Et encore, Sampaoli avait réussi, vous allez me dire, à passer un tour. Enfin, là, j'ai aucun plaisir à voir cette équipe d'Argentine. Alors, vous allez me dire, il y a des occasions. C'est un fait. mais au final, du jeu du lion, vous savez, ce jeu collectif, j'en
non,
ai
puis,
pas.
Il y a des joueurs qui sont très tristes, on pense à Paredes, qui est effectivement, Alejandro Valente le disait l'autre jour, hein, lui non plus, il comprend pas grand-chose.
De toute façon, il joue pas à son poste, Paredes,
voilà,
hein, déjà.
Exactement. Mais Paredes... Celso non plus n'était pas à son poste au premier match.
Il leur laisse un peu de liberté au milieu de terrain, avec Celso notamment, ça se voit qu'ils essaient de permuter. Mais
on voit pas libre.
Et dans ce match, il a été mieux que le premier match.
Vous avez raison sur ce point, mais Paredes, enfin, je rappelle quand même que depuis 6-7 mois, c'est un joueur quelconque hein, au PSG. C'est pas comme si on avait vu un super joueur qui méritait d'être en sélection argentine. On l'a rien vu. Donc au final, c'est un joueur et on ne veut pas le dire peut-être, mais ça reste une sélection argentine individuellement parlant qui reste des joueurs très moyens, mis à part évidemment Messi et Agüero. Mmh.
Et pourtant, le peuple argentin, il croyait, Annie. Moi, j'ai vu
c'est
une,
pas fini, hein.
une bande, j'ai vu, évidemment, c'est pas fini, mais j'ai vu une bande promo avant cette compétition où le peuple argentin clamait, mais vraiment l'amour pour le pays. Il faut être derrière cette équipe-là. Évidemment, l'équipe, je pense, est en train de décevoir.
Et puis, aller jouer une Copa América au Brésil, ça donnait un peu plus de piquant.
Oh, mais c'est amusant parce que depuis 93, quand même, ils ont pas eu un seul trophée. Ça fait mal.
Alors qu'ils ont joué deux finales. En tout cas, ça sera dimanche soir à Porto Alegre. Donc, théoriquement, c'est près de, c'est une ville qui est dans le sud du Brésil, qui est près de l'Argentine. Il y aura peut-être des Argentins pour encourager cette équipe qui jouera donc pour gagner face au Qatar.
La Coupe du Monde féminine de la FIFA, France 2019.
Have Argentina got another goal in them? You couldn't rule it out, could you? Oh, now then! The VAR team checking for a possible penalty. Penalty, Argentina! No, Alexander with a save! Lee Alexander! VAR are checking for a possible offence by the goalkeeper. The penalty is going to be retaken. And to break Scotland hearts, Scotland are out. Argentina have come back from the dead to keep their slim hopes alive.
Quel match fou hier soir au Parc des Princes entre l'Écosse et l'Argentine. Qui l'eût cru avant le coup d'envoi? Les Écossaises, comme les Sud-Américaines, sont passées par tous les états d'âme. En menant 3-0, les jeunes Écossaises se savaient au deuxième tour. Une prouesse, c'est leur première participation en Coupe du Monde. Mais on n'était qu'à la 75e minute. Lorsque, tout d'un coup, les Argentines ont commencé une remontada, sans même Messi, hein, parce qu'il était un peu loin, Messi. Mais il a dû leur donner des cours. Et lorsqu'elles ont obtenu le pénalty, qui, comme d'habitude, maintenant a dû être retiré, eh bien, Florencia Bonsegundo n'en croyait pas sa réussite. Elle était au micro de notre consoeur de la rédaction espagnole, Ana María Ospina.
Quand il a fallu retirer, mes camarades sont toutes venues m'encourager. Et en 20 secondes, j'ai eu la revanche de pouvoir le marquer, ce pénalty. Je suis trop contente, grâce surtout à leurs encouragements. Mais ça a été dur, très dur. Il nous restait 25 minutes pour revenir. Enfin, je crois, je ne me souviens plus bien. Je suis restée très concentrée. Après ce 3-0, très vite, nous avons marqué un but et puis deux. On a montré que l'Argentine se bat toujours jusqu'à la dernière minute.
Et oui, la Gara, elles ont voulu se battre, ces Argentines. Elles avaient déjà passé 284 minutes sans marquer. Et tout d'un coup, 3 buts. Vous y étiez, Salim. Ouais. Ambiance folle dans ce match.
Ah, c'était incroyable parce qu'il faut rappeler quand même que sur le papier, Écosse-Argentine, quand vous allez dans le même groupe, Japon et Angleterre, c'est pas le match, a priori, le plus sexy de ce tournoi. Mais ce Écosse-Argentine, dans le stade, donc il y avait 28 000 personnes quand même au Parc des Princes, ce qui est un chiffre plutôt intéressant quand vous avez vu les 20 000 simplement, entre guillemets, lors du Afrique du Sud Chine qui a eu lieu quelques jours auparavant. Et puis une belle ambiance, les supporters argentins qui ont mis le feu vraiment dans ce stade.
Ils savent le faire.
Et en fait, bizarrement, il y a 3-0, vous l'avez dit, pour l'Écosse, une lourde domination de la part des Écossaises. Erin Cochbert, notamment, qui est une joueuse
c'est
de Chelsea, qui est vraiment une joueuse au-dessus du lot. C'est une toute jeune, elle a 20 ans, elle a été récupérée par Chelsea et elle est très au-dessus du lot. Donc l'Écosse domine largement, a même d'autres occasions pour marquer un quatrième but qu'elle rate assez facilement. Et puis là, l'entraîneur argentin fait un petit changement, la joueuse en question entre, met un peu de pêche, réduction d'écart, et puis là tout d'un coup, des vagues, les Écossaises qui tremblent, elles n'arrivent plus à garder le moindre ballon, et puis au final il y a cette égalisation, et puis surtout ces séquences qui sont très fortes parce que sur le pénalty à 3-2, vous avez des joueurs argentins qui commencent à pleurer sur le banc en se disant « Qu'est-ce qui se passe? On va peut-être marquer, on va peut-être se qualifier. » Enfin, c'est des séquences. Tout ce qui s'est passé dans ce match est invraisemblable. C'est en termes d'émotion, je dis pas en termes de qualité de jeu, en termes d'émotion, vraiment, je vous assure, moi, j'en ai vu des matchs de ma vie en stade. Mais alors, en termes d'émotion, c'est un truc, je sais que je le garderai parce que c'était invraisemblable, c'est inexplicable, voilà.
Ouais, c'était... Et il y a le côté dramaturge aussi, ouais, parce qu'il y a le côté...
Un scénario inimaginable.
Ouais, mais vraisemblable, genre remontada, ensuite il y a le côté liturgique en disant, voilà, il y a une injustice, il y a ce côté, voilà, pourquoi ça arrive, et on a l'impression que c'est un scénario d'un film, tout est monté, fait. Et puis à la fin, tu vois, il y a ce grand sentiment d'injustice où t'as envie de pleurer pour les Écossaises, et t'es à la fois content pour la remontada des Argentines.
Alors justement... il y a eu évidemment cette joie pour les Argentines qui peuvent continuer dans la compétition. Et puis en face, eh bien, une déception immense. Écoutons Jennifer Beatty.
On est totalement abattus. Perdre de cette façon, ça nous servira de leçon. Franchement, se laisser rattraper de cette façon, c'est impardonnable dans un mondial.
Impardonnable, surtout quand on participe pour la première fois et qu'on a vu de si près le Graal. Très triste, mais écoutez, il y a quand même eu une petite satisfaction. Écoutez si vous saurez me donner la réponse.
L'Écosse, qui a dominé en début de rencontre, profite d'une erreur de Blanco pour égaliser. John Beattie a suivi cette chandelle de Rutherford et contre le dégagement de l'arrière français.
Petite perle découverte par David Finzel. John Beattie était...
Le
un
papa?
Joueur,
non.
Le papa.
Ah ouais, d'accord. C'est beau.
Mais
ah,
pas
ouais.
Un footballeur, c'était un joueur de rugby. Mais ils deviennent tous les deux, pour la première fois, un père et une fille auront marqué sur la pelouse du Parc des Princes dans une compétition officielle.
Ah ouais.
Ah, c'est pas mal, Salima.
Ah, elle est excellente.
Bravo, David Finzel.
Quel génie, David.
Il a réussi à trouver la petite pépite. En tout cas, eh bien, voilà, du coup, les Argentines se sont achetées finalement une survie dans la compétition.
C'est ça, puisque désormais elles ont 2 points, donc elles peuvent encore espérer se qualifier en tant que meilleur troisième dans cette compétition.
Ça va être extrêmement dur parce qu'il faut 2 matchs nuls consécutifs.
Voilà, exactement. Il faut que les 2 matchs qui vont avoir lieu, que ce soit le Cameroun et puis de l'autre côté Thaïlande-Chili, eh bien, il faut qu'il n'y ait pas de victoire pour que les Argentines espèrent se qualifier.
On surveillera ça ce soir. Mais en tout cas, écoutez, parce que ce pénalty, il a aussi semé la joie dans un groupe. Celui des Super Falcons. Écoutez, elles étaient à l'hôtel hier soir au moment où le tir au but était retiré. Alors les Nigérianes, elles savent de quoi.
Quand même.
Oui, et elles connaissent ce genre d'état d'âme puisque elles avaient vécu la même situation, un penalty arrêté qu'on fait retirer.
Indirectement, on a l'impression que le bon Dieu leur a tendu une petite perche parce
exactement.
Ce penalty retiré.
Alors elles étaient contre la France et là elles constatent la même situation et finalement elles vont peut-être bénéficier de cette situation. Nabil, il fait la grimace.
Moi, je suis contre cette loi 14 amendée le 1er juin dernier. C'est déjà assez compliqué comme ça. On vient de créer, j'avais dit avec humour, après la goal line technology, on vient de créer la pied line technology. Donc on va surveiller. Quand c'est caricatural, moi je l'entends, mais quand ça se joue au millimètre, c'est l'esprit du football.
Et d'ailleurs, c'est pour cette raison, alors ce sont nos confrères de la presse britannique, notamment du Guardian qui l'évoquent, la Première Ligue qui va introduire le VAR à partir de la saison prochaine. Normalement, la Première Ligue devrait expliquer de manière officielle que sur ces séquences de jeu-là, donc s'il y a un pénalty à retirer ou caisse, eh bien ce sera l'arbitre central, uniquement lui, qui déterminera donc à travers ses yeux et pas une vidéo si effectivement le gardien s'est nettement avancé ou pas. Si lui estime simplement que ce n'est pas le cas, il n'y aura pas de pénalty à retirer, au moins on ne repassera pas par la vidéo pour voir que le gardien est en avance de 2 mm simplement.
Eh bien, les Anglais qui ont inventé le football, ou en tout cas qui l'ont codifié, vont peut-être faire un pas aussi pour régenter tout cela. Le Nigeria, alors toujours en vie pour la poursuite de la compétition, et peut-être pas la seule équipe africaine.
C'est une pression, ça peut pas nous libérer vu que ça passe ou ça casse. Donc on peut pas dire que ça nous libère. Certes, on a tout à perdre, mais comme on dit, au fait, on a plus le choix.
Je pense pas qu'il y aura une différence avec les autres matchs. Ça sera la même chose, tout donné. C'est vrai que les enjeux sont encore plus énormes vu que au vu de ce match, on a des chances de se qualifier pour les 8e. Le peuple camerounais est derrière nous, ils attendent vraiment le moment où il faut vraiment tout donner.
Les Camerounaises qui arrivaient tout à l'heure, il y a peu, dans les couloirs du stade de la Mosson. Aura-t-on une deuxième équipe qualifiée pour ses huitièmes? Le Cameroun qui a son destin en main. Et nous, nous sommes dans les mains de nos envoyés spéciaux dans ce stade de la Mosson. Christophe Diremzian, Olivier Pron, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Bonsoir à tous ceux qui vous entourent. Comme vous y allez, deux équipes africaines, on en rêve, mais je suis pas bien sûr que ce soit tout à fait possible. À mon avis, il y aura l'une ou l'autre. On va voir les scénarios de ce soir. Il va falloir sortir la calculette. Ce que l'on sait, Christophe, c'est qu'ici, les Camerounaises, à Montpellier, doivent battre les Néo-Zélandaises. Et si possible, en marquant deux buts, ça veut pas dire deux buts d'écart, mais ça veut dire 2-1 ou 3-2. Là, elles seraient quasiment assurées, ou en tout cas tout proches, d'être parmi les quatre meilleurs troisièmes.
Oui, parce que ça se jouerait dans ces conditions. Au fair play et dans ces conditions pour l'instant le Cameroun a un léger avantage sur le Nigeria puisque disons que les Nigériennes ont été plus averties, surtout elles ont écopé d'un carton rouge contre la France, et en termes de points dans le règlement ça compte évidemment beaucoup plus que pour les Camerounaises. Attention quand même pour les Camerounaises qui devront faire très attention cet après-midi, non seulement par rapport à ce critère éventuel du fair play, mais tout simplement parce qu'il y a déjà 5 Camerounaises qui sont averties par rapport au match précédent et qui auraient donc peut-être éventuellement des suspendus en cas de qualification pour les huitièmes de finale. Et c'est notamment le cas, par précaution, de la capitaine Christine Mani, qui n'est pas titularisée cet après-midi par Alain Djumfa. Elle a été remplacée à son poste habituel de défenseur central par Augustine Edjangé. Alors c'est pas le seul cas, mais c'est quand même un petit peu étrange, Olivier, de mettre sur le banc celle qui a pourtant bien fait le travail jusqu'à présent.
C'est très étrange, je suis pas du tout sûr, moi, qu'elle soit sur le banc parce qu'on craint un deuxième carton. Vous avez besoin de gagner ce match-là. Quand vous êtes Alain Djumfa, le sélectionneur, vous mettez la meilleure équipe possible, peu importe qui sera suspendu dans un éventuel huitième de finale. Quand vous retirez Christine Mani, mais que vous titularisez Gaël Nganamouit, qui a été fantomatique lors de la dernière CAN, qui aurait presque coûté une place en finale à ses partenaires tellement elle était aux fraises, qui n'a pas joué depuis janvier, vous la titularisez pour un match décisif, ça c'est quand même très très choquant. Voilà pour un décor planté. On vous rappelle juste, Annie, qu'on est à Montpellier, qu'on a un avant-goût de ce qui nous attend à Paris lundi, mardi, mercredi, si j'ai bien vu la météo. Ici, il fait que 28 degrés, mais on est déjà à 64% d'humidité. Il n'y a pas de vent du tout, donc il fait chaud, très très chaud.
Eh ben ici, c'est déjà arrivé, je vous rassure, Olivier. On a et la chaleur et l'humidité. Tom Rossi m'a rejoint aussi dans le studio de Radio Foot. Messieurs, un petit mot peut-être sur ce match. On a le temps, hein, Olivier, pour demander à Nabil Djellit ou Salim Bongali.
Oui, enfin, surtout, il faut rappeler quand même une chose, il y a un cas potentiel pour avoir deux équipes africaines, hein, les deux, le Cameroun et le Nigeria, qui pourraient ainsi être qualifiés. Il faut que le Cameroun donc s'impose, hein, évidemment, aujourd'hui, ça c'est une obligation. Et puis donc, espérer dans le même temps qu'il y ait ce match nul entre la Thaïlande et le Chili. Ce cas-là permettrait à ce moment d'avoir et le Cameroun et le Nigeria, deux équipes africaines en huitième, ce serait évident. Quelque chose d'exceptionnel. Olivier l'a évoqué, c'est vrai que il y a des choix. C'est étonnant de voir ainsi Nganamoui notamment titulaire aujourd'hui. Après, en face, on a eu une équipe qui a été décevante, la Nouvelle-Zélande, même si elle avait perdu que 1-0 face aux Pays-Bas. Ça va jouer à pas grand chose, ok.
Freddy, oui, Olivier.
La Nouvelle-Zélande, juste cette stat incroyable, hein. Elle dispute sa 5e phase finale de Coupe du Monde de rang. Elle en est donc à son 15e match.
Pas
elle en a disputé
marqué, hein.
14, elle en a jamais gagné un.
Ouais.
Jamais. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une victoire en Coupe du Monde.
Et zéro but marqué depuis le début de cette édition. Hein.
Ouais, mais en parlant de but, il faut déjà que le Cameroun arrive à marquer de but et se créer des occasions. Parce que le vrai problème de cette équipe du Cameroun, c'est pas le manque de volonté. Elles sont volontaires, elles sont courageuses, elles donnent ce qu'elles peuvent. Malheureusement, elles ne créent pas beaucoup de dangers. Évidemment, aujourd'hui, je pense que le sélectionneur, lui, a misé sur la fraîcheur. Et peut-être cette fraîcheur-là va permettre de se créer des occasions et d'en marquer. Un tout petit but d'abord, ensuite un deuxième qui permettrait évidemment de rattraper la différence de but qui est inférieure pour l'instant.
Et Gaëlle Nganamouit, elle est fraîche, ça, elle peut être que fraîche, elle n'a pas joué depuis 6 mois.
Exactement.
En même temps, ça manque un peu de compétition pour un match décisif.
Olivier, on va peut-être entendre la défenseur pendant que les joueuses arrivent sur la pelouse. Vous aviez une interview à nous proposer de Yvonne Lecaux. On l'écoute tout de suite.
Nous devons améliorer nos derniers passes, notre justesse devant les buts. Parce que nous avons peu d'occasions, mais le peu qu'on a, on ne les concrétise pas. Et parfois, on est un peu, comment dire en anglais, permissif. On attend, on voit jouer l'adversaire, alors qu'on sait très bien qu'on est à une phase finale de la Coupe du Monde. Donc, on ne devrait pas voir jouer l'adversaire. On devrait se donner à 100%. Parfois, je demande qu'est-ce qui nous arrive, quoi. On se regarde en disant l'autre, elle va faire le boulot. Et en fin de compte, l'autre, elle ne fait pas le boulot. On se dit, ah, ben tiens, il faut que j'y aille aussi. Donc, il faut que nous soyons un bloc équipe, que ce soit un bloc équipe, qu'il soit haut ou bas, il faut que nous soyons assez compacts et très, très solidaires.
Il faut être compact. Pour l'instant, elles sont compactes sur la pelouse où elles viennent de rentrer pour écouter les hymnes, Olivier.
Absolument. Alors, c'est moi qui vais prendre la parole simplement pour.
Il me confisque le micro.
Il n'y a pas de souci. C'était simplement pour vous donner la composition exacte du Cameroun, puisqu'on n'aura pas le temps de le faire un petit peu plus tard. Dans les buts, toujours pas de changement. C'est toujours Annette Godom. La défense, toujours a priori un 5-4-1 avec de gauche à droite Aurel Awona, Ellen Johnson, Augustine Nchangé, donc qui vit sa première titularisation dans cette Coupe du Monde, Yvonne Lecaux et Raissa Fujo dans une position légèrement avancée. Milieu de terrain, Gabriel Onguéné, qui est donc capitaine cet après-midi. Jeannette Tiongo, Anne Jaranchout et Michaela Abam, et puis à la pointe de l'attaque Gaëlle Nganamoui, donc qui fera office donc de ce qu'on espère en tout cas l'atout offensif principal pour les Camerounaises.
Alors qu'on entend peut-être derrière nous, peut-être nos auditeurs
bien
aussi,
sûr.
L'hymne camerounais actuellement ici au stade de la Mosson qui n'affichera pas complet. Hein. 9€ la place, on a annoncé ce matin, c'est pas cher. Faut venir les encourager. On sait qu'il y a une grosse communauté camerounaise ici. On sait que Roger Mila a joué. Il a été champion, même champion de France de D2 en 87. Ça, c'est sûr que nos amis autour de vous, Annie, ne s'en souviennent pas. Il n'était pas né.
Non.
Évidemment.
Peut-être.
Mais
Olivier, il s'en souvient.
Ah, moi, j'avais déjà 40 ans, moi. J'avais déjà 40 ans, pensez donc.
Mais Olivier, surtout, ce qu'on peut dire aussi du stade de la Mosson et de cette ville de Montpellier, c'est que c'est une des villes qui avait misé sur le football féminin il y a quelques années grâce à son président, alors propriétaire, Louis Nicolin, disparu aujourd'hui.
Oui, et son fils reprend le flambeau. Il y avait une interview extrêmement intéressante de lui sur le manque de moyens, sur le fait que le football féminin doit être aidé. C'était il y a quelques jours, ou peut-être 15 jours, 3 semaines, Laurent Nicolin. Donc c'est vrai, c'est bien que ce stade, bon, qui est vieux, qui a bien vieilli. On rappelle, il a été rénové pour la Coupe du Monde 98. Depuis, il aurait bien besoin d'un nouveau petit coup de fraîcheur. La tribune en face de nous est fermée pour les matchs de Ligue 1. Elle est évidemment fermée aux 3 quarts ou aux 2 tiers. Non, il n'y aura pas grand monde aujourd'hui. Et pourtant, c'est un stade mythique ici et c'est toujours sympa de voir une finale, pas une finale, mais une finale de groupe, ou en tout cas pour une place en huitième de finale. On va y arriver. Et donc, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont dans le coin de Montpellier, qui n'hésitent pas à venir, c'est pas cher et ça peut peut-être rapporter gros au Cameroun. Voilà. Je vous fais rapidement la compo néo-zélandaise telle que la FIFA nous l'a livrée, parce que c'est compliqué d'avoir des informations. Pour tout vous dire, hier dans les conférences de presse de veille de match, on n'était pas très nombreux. C'était presque des conférences de presse 100% RFI. Il y a eu 5 questions posées aux Camerounaises, 3 par moi, 2 par Christophe Diremzian et 4 questions posées aux néo-zélandaises, dont 2 en anglais par votre serviteur, s'il vous plaît. Je me suis mis à leur portée et ils semblaient satisfaits de pouvoir répondre à quelques questions.
C'est charmeur d'Olivier.
Ah oui, je dois dire que face à moi, il y avait la petite Sarah Gregorius qui jouait au Japon, qui sera l'attaquante de pointe aujourd'hui, et elle était très très charmante et manifestement ravie qu'on lui pose des questions. À côté d'elle, j'attaque pour la défense puisqu'on a parlé d'elle, Sarah Gregorius, Rosie White, ce seront les 2 pointes. Juste derrière elle, il y aura un milieu à 3, Ria Percival, Cathy Duncan, Olivia Chance, et puis une défense à 5 a priori, Cathy Bowen à droite, Rebecca Stott, Abby Herseg, Ali Riley qui est la capitaine, elles sont toutes les 3 plutôt centrales, et puis à gauche Anna Green qui joue en Nouvelle-Zélande, et puis dans les buts Erin Naylor, elle connaît bien la France puisqu'elle joue, elle joue à Bordeaux depuis cette saison, elle a même fait un passage à Grenoble avant et à Lyon chez Christophe Diremzian.
Messieurs Olivier, Olivier, Christophe, on va vous laisser avec ce match puisque le coup d'envoi va être donné d'ici quelques secondes. Et je voulais juste dire à tous nos auditeurs africains qu'on vous retrouvera dans la 2e édition de Radio Foot International à 21h10 en temps universel. Merci Salim, Nabil,
merci.
Et Freddy et Tom Rossi. Je vous laisse le micro ici dans
merci,
ce studio.
Merci Annie.
Bon match.
Merci Annie, merci. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Monsieur Rossi, vous êtes là?
Oui, je suis là. Je pensais que vous alliez prendre la parole.
Non, on est des gens polis, nous, on attend que vous nous la donniez.
Nous prenons le relais sans aucun problème, mon cher Tom. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, pour l'instant, les deux équipes sont déjà évidemment sur le terrain, avec chaque équipe regroupée pour le traditionnel cercle d'encouragement avant ce match qui va être arbitré, on va en préciser tout de suite, par un trio arbitral ukrainien emmené pour son arbitre central par Madame Katerina Monzoul.
Et on n'oublie pas qu'il y a un autre match dans ce groupe qui est décisif pour l'attribution de la première place entre deux équipes qui sont qualifiées. C'est dans une très très belle ville que ça va se jouer.
Oui, c'est Reims.
C'est à Reims, il faut mentionner, au stade Auguste Delaune, Pays-Bas, Canada, deux équipes qui ont battu lors des deux premières journées, et les Camerounaises et les Néo-Zélandaises.
Alors avec dans quelques instants donc le coup d'envoi, pour l'instant toujours les deux équipes qui sont en train de se concerter, de s'encourager donc pour ce troisième match décisif, que ce soit pour l'une ou pour l'autre équipe, puisqu'on rappelle que évidemment les Néo-Zélandaises pourraient évidemment se qualifier à l'issue de ce match dans les conditions à peu près identiques à celles des Camerounaises. Et alors que ces fameuses lions indomptables sont toujours en train de s'encourager. Ça y est, elles se sont dit ce qu'il fallait pour faire en sorte d'être qualifiées tout à l'heure sur le coup de 18h temps universel.
Elles l'ont dit, hein, les lions sont en chasse. La chasse n'est pas finie. Et c'est la chasse aux ferns, comme et on les appelle.
Les fougères
néo-zélandaises, bien sûr, en rapport à ce maillot des All Blacks, l'équipe de rugby. On connaît mieux en sport, hein, évidemment, le rugby néo-zélandais que le football. Et c'est une fougère qui orne le maillot de l'équipe nationale des All Blacks. C'est pareil pour ces demoiselles qui jouent tout en blanc. Cependant, aujourd'hui, et les Camerounais.